Vous êtes sur Europe 1, il est 18h.
Moi-même, je me mettais la pression parce que voilà, ça me tenait à cœur d'accomplir cet objectif-là. Donc, extrêmement heureux et extrêmement satisfait de l'accomplissement de l'objectif, quoi.
Une médaille de plus en or aujourd'hui à Tokyo pour le tireur Jean Quiquempoix. La France qui, depuis le début de la compétition, a engrangé 23 récompenses.
Emmanuel Macron veut défaire le vrai du faux sur la vaccination. Le président s'est directement adressé aux Français aujourd'hui via Instagram pour couper court aux rumeurs.
102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint l'année dernière. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué une série de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes.
L'annonce était très attendue. Les bébés pandas sont nés la nuit dernière. La femelle Wanwan a donné naissance aux os de Beauval à des jumeaux. Ils sont en parfaite santé.
La bourse de Paris, le CAC 40, finit la séance en hausse de 0,95% à 6675 points.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, ciel toujours passagèrement pluvieux demain entre Aquitaine et Alsace, orageuse plus que pluvieuse, nuageux plus au nord, ensoleillé plus au sud, et un ciel qui va s'assombrir partout au fil de la journée, sauf sur la Méditerranée. Je vous en dis plus, évidemment, à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France reste à la 7e place au classement des médailles à Tokyo. 23 récompenses en tout pour les Bleus, 6 en or.
Oui, un classement qui n'a pas bougé malgré un nouveau titre olympique, celui de Jean Quiquempoix en tir rapide à 25 mètres. Immense joie du tireur qui nous explique également en quoi consiste cette discipline. Écoutez.
Il y avait de la pression parce que forcément j'étais le favori. Statistiquement, les deux compétitions de l'année, je les avais remportées, donc à savoir le championnat d'Europe et la manche de Coupe du Monde. Déjà, moi-même, je me mettais la pression parce que voilà, ça me tenait à cœur d'accomplir cet objectif-là. Et après, bien sûr, il y a la pression extérieure, de l'environnement. Puis il y a l'événement en soi, les Jeux Olympiques, ça reste un événement à pression assez fort. Donc extrêmement heureux et extrêmement satisfait de l'accomplissement de l'objectif, quoi. Alors la taille de la zone, c'est un peu plus de 10 cm de diamètre. Il y a cette pastille-là à toucher sur chacune des 5 cibles et en 4 secondes, effectivement, on a le bras en bas et à la lumière verte, on lève le bras et on a 4 secondes donc pour essayer de tirer au centre de ce rond de 10 cm. C'est un mélange donc d'habileté, de vivacité, mais aussi à la fois de précision et de finesse dans le geste, parce que voilà, c'est en très peu de temps, il faut faire énormément de petites choses. Ça passe par de l'entraînement, de la répétition. C'est vrai qu'avant de se mettre à ma discipline, d'abord il faut savoir tirer sans contrainte de temps et tout simplement pour ensuite venir à ma discipline.
Jean Quiquempoix au micro européen de Bruno Cuaz.
Une autre médaille aujourd'hui pour les cavaliers français et elle est en bronze, Axel May.
Oui, l'équipe de France a fini en bronze du concours complet par équipe. Les Bleus avaient décroché l'or à Rio, mais cette fois, Christopher Six, Nicolas Touzin et Karim Florent Larouag ont été devancés par les intouchables Britanniques et puis par les Australiens. Alors, cette médaille a une saveur particulière, ont expliqué les Bleus, car l'un des leurs, Thomas Carlyle, a été contraint de quitter Tokyo, sa jument ayant des problèmes musculaires, et Astier Nicolas avait déclaré dès début juillet forfait aussi pour des problèmes avec son cheval. Bref, vous l'aurez compris, du bronze qui vaut presque de l'or pour ces cavaliers français. Mmh. À noter juste aussi que le concours complet en individuel a été remporté par la cavalière allemande Julia Krajewski. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle entre dans l'histoire en devenant la première femme à remporter l'épreuve, épreuve qui est mixte depuis Tokyo 1964, et il aura donc fallu attendre Tokyo 2021 pour voir une femme, Julia Krajewski, remporter ce concours complet en individuel.
Bon, on va de nouveau s'intéresser aux Français à Tokyo. Il y a eu quand même une petite déception aujourd'hui, elle est en gymnastique, Axel.
Ouais, c'est même une grosse déception, on peut le dire, je pense, parce que Samir Aït Saïd, qui était l'un des porte-drapeaux de la délégation française, eh bien, n'a terminé que quatrième de la finale des anneaux, alors qu'il visait évidemment un podium. En fait, il était blessé. Et puis ça renvoie à sa blessure beaucoup plus grave à Rio. Il s'était double fracture du tibia péroné en qualification des anneaux. Cette fois, c'est une douleur musculaire. Écoutez-le, il est au micro de nos confrères de France Télévisions.
La tristesse, une déception. J'ai bossé dur et ça n'a pas payé. Il y a 3 jours de ça, j'ai entendu un clac dans mon biceps. J'ai lâché les anneaux direct. Je devais faire forfait, j'arrivais pas à monter sur les anneaux. Il faut toujours qu'il m'arrête quelque chose. Et si ça devait péter, ça pèterait là-haut. Non, il n'y a pas de blessé, pas blessé. Il n'y a aucune excuse. Ça ne me va pas. Quatrième, ça ne me va pas.
Et puis pour les leftos ou pour les couches tard, c'est au choix. Plusieurs épreuves sont à suivre cette nuit, Axel.
Oui, alors il y a l'athlétisme qui commence très tôt. Hein. C'est 2h05 du matin pour les Français avec le 1500 mètres hommes. Ensuite, un peu plus tard, vous aurez la finale de la perche avec Renaud Lavillenie. Ça sera à la mi-journée. Et puis, toujours en pleine nuit, là, handball, quart de finale masculin, Bahreïn-France, à 2h30 du matin. Hein. C'est vraiment, vraiment tôt. Et puis, vous pouvez aussi, alors là, un peu plus tard, à 10h20, notez-le, un quart de finale en basket, quart de finale masculin entre l'Italie et la France. Je pense qu'on aura quand même des petites breloques demain dans la journée.
On va suivre ça avec intérêt. Merci Axel May du service des sports d'Europe 1. Aujourd'hui en tout cas, ce sont 34 médaillés qui sont rentrés de Tokyo à Paris et ils ont été accueillis au fan village du Trocadéro par une foule immense de supporters venus acclamer les champions.
La réponse d'Emmanuel Macron après les manifestations anti-vaccins du week-end. Le président a pris la parole dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
Oui, une prise de parole après les manifestations du week-end contre le pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 200 000 personnes à travers le pays. Emmanuel Macron qui veut contrer les fausses rumeurs.
Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Emmanuel Macron sur son compte Instagram, le président qui a commencé à répondre aux Français sur la vaccination. Si vous ne le faites pas, faites-le pour les autres, a-t-il déclaré.
Oui, concernant la vaccination, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, estime possible d'atteindre l'immunité collective avec 90% de la population vaccinée au début de l'automne.
Du côté des chiffres, la pression hospitalière est toujours forte. Plus de 7500 patients se trouvent désormais à l'hôpital. C'est 730 de plus qu'il y a une semaine, parmi lesquels 251 malades supplémentaires en réanimation à 1197 patients.
Gérald Darmanin souhaite faire de la lutte contre les violences conjugales l'une des priorités pour les forces de l'ordre.
Dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Intérieur a réagi au bilan annuel des morts violentes au sein du couple publié par la délégation d'aide aux victimes. 102 femmes sont décédées l'année dernière sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre conséquent évidemment qui a tout de même reculé en comparaison avec 2019, Marion Dubreuil.
Oui, c'est en moyenne un décès tous les 3 jours l'an dernier contre un décès tous les 2 jours en 2019, où l'on déplorait 146 féminicides. La baisse est notable et pour les associations, c'est le fruit d'une campagne de sensibilisation inédite aux violences conjugales pendant le premier confinement. Rappelez-vous, le gouvernement a multiplié les moyens pour les victimes de se signaler. Supermarchés, pharmacies, en plus bien sûr des commissariats et des brigades de gendarmerie, plateforme d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis davantage de moyens alloués aux hébergements d'urgence pour extraire les femmes de situations à risque. Et c'est essentiel car, cette étude le confirme, l'écrasante majorité des féminicides ont lieu au domicile conjugal.
Oui, plus d'un tiers de ces femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint étaient déjà victimes de violences, Marion.
Oui, c'est un chiffre sans doute sous-évalué car les violences psychologiques sont plus rarement connues. En revanche, une femme sur 5 avait déposé plainte et c'est constant par rapport à l'an dernier. C'est là où il reste une marge de manœuvre importante. Les interventions des forces de l'ordre sont pourtant à leur plus haut niveau. 400 000 interventions pour différents familiales l'an dernier. Le rapport dénombre 2 fois moins de procédures judiciaires. Et c'est là encore une des pistes d'amélioration pour le ministre de l'Intérieur. Dans une interview accordée aux Parisiens, Gérald Darmanin dit vouloir encourager le recueil de plaintes ou les signalements au procureur. Et pour cela, il annonce un gendarme ou un policier référent des violences conjugales par brigade et commissariat.
En revanche, le gouvernement n'annonce pas de moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales.
Non, et c'est bien ce qui inquiète les associations comme la Fondation des Femmes. Sa présidente, Anne-Cécile Maillefer, craint que le ministre de l'Intérieur ait cédé à un effet d'annonce.
On est sur un yo-yo des priorités en matière de violence conjugale, où en fait, pendant quelques mois, on est en haut de la pile, on voit que ça s'améliore, et puis après, on descend en bas de la pile. Et grâce à la mobilisation médiatique et des associations, on arrive à péniblement remonter au-delà de la pile, et surtout quand il y a des défaillances tellement graves que vraiment, là, l'image du ministre est écornée, donc il se sent un peu obligé de faire remonter au-delà de la pile. Mais ce yo-yo-là, il est extrêmement néfaste pour les femmes victimes. Il faut qu'on puisse leur promettre et que derrière ce soit suivi des faits, qu'elles seront toujours extrêmement bien accueillies et qu'elles seront toujours extrêmement bien écoutées et protégées.
Depuis le début de l'année, le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex dénombre déjà 70 féminicides.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
La sécheresse et les vents font craindre de violents incendies dans le sud de la France. Et après deux feux hier sur la Côte d'Azur, eh bien le Var a préféré prendre ses précautions.
Oui, mais sur les 9 que compte le Var sont classés en risque très sévère et leur accès est strictement interdit, comme nous l'a expliqué Florent Dossetti, le porte-parole des pompiers du Var.
Bien entendu, aucune promenade à l'intérieur de ces massifs. Il est interdit de circuler sur les voies également avec un panneau B0. C'est des panneaux blancs cerclés de rouge, donc toutes ces pistes-là sont interdites à la circulation également. Et bien entendu, les conseils d'usage d'interdiction de jeter les mégots, interdiction d'allumer un feu, pas de camping sauvage et bien sûr interdiction de fumer à proximité des massifs. Là, on est vraiment dans des conditions un peu explosives en cas de départ de feu. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Nous appelons la population à la plus grande vigilance et nous rappelons qu'en cas de départ de feu, on se signale en contactant le 18 ou le 112 et on se localise le plus précisément possible afin que les moyens terrestres et aériens puissent se diriger sur la zone impactée le plus rapidement possible, sachant que notre devise, c'est frapper vite et fort.
Florent Dossetti, porte-parole des pompiers du Var, avec Caroline Baudry pour Europe 1. Dans les Alpes-Maritimes, 2 massifs sont également interdits d'accès et 9 dans les Bouches-du-Rhône. Le sud de l'Europe également est ravagé par les flammes. L'Espagne, l'Italie, la Turquie et la Grèce en raison des températures caniculaires. La Grèce, où les pompiers luttent contre 2 feux importants sur l'île de Rhodes et dans le Péloponnèse. Le pays est frappé par sa pire canicule depuis 34 ans. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre grec. Par endroits, le mercure a atteint les 45 degrés.
C'est le jour J pour les salariés d'Ascoval et d'Ayange. Le tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision ce soir pour la reprise des sites français d'Assyrie.
Oui, et en fait, Olivier Samain, il n'y a pas de suspense. C'est l'offre de l'allemand Sarchtal qui va être retenue.
Oui, conformément à l'accord de principe conclu au début du mois de juillet, accord aussitôt salué par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui avait vu dans ce projet de reprise l'émergence d'un nouvel acteur européen dans le secteur des aciers longs destinés à la fabrication des rails de chemin de fer. Il faut dire qu'au-delà du rachat des 2 sites concernés, celui de Saint-Saulve dans le Nord, qui emploie 270 salariés, et celui d'Ayange en Moselle, où travaillent 430 personnes, le repreneur, Sarchtal, propose de moderniser l'outil. On parle de 40 millions d'euros d'investissement, d'où le soutien de l'ensemble des syndicats. Le dossier, disent-ils, est le plus solide sur le plan financier et industriel. C'est celui qui offre les meilleures garanties de stabilité pour l'emploi. Ainsi s'achève une période d'incertitude ouverte au printemps, quand l'actuel propriétaire d'Ascoval, le groupe Liberty Steel, s'est retrouvé en situation délicate due aux déboires financiers de son actionnaire, le milliardaire britannique Sanjay Gupta.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Le ministre chargé des PME, Alain Griset, dit attendre sereinement sa convocation devant la justice. Il doit être jugé le 22 septembre prochain par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir omis de déclarer tout son patrimoine.
Et c'est le carnet rose du jour. 4 ans après son premier petit, la femelle panda du zoo de Beauval a donné naissance la nuit dernière à des jumeaux.
Oui, les bébés de Ruan Ruan sont en bonne santé et pèsent entre 100 et 150 grammes. Leur évolution va être très suivie, comme nous l'a expliqué Rodolphe Delors, directeur général du zoo de Beauval.
Ce sont des toutes petites créatures adorables, sans poils. Ce sont pratiquement des embryons, finalement, après seulement une cinquantaine de jours de gestation. Les soigneurs français comme les soigneurs chinois retirent les bébés un par un en alternance et passent en couveuse pour que la maman puisse se reposer et surtout qu'elle en fasse têter un seuil à la fois. Parce qu'ils têtent leur maman, ce sont des mammifères bien sûr, mais les pandas ont énormément de mal à élever 2 bébés. À état naturel, lorsqu'il naît 2 bébés, généralement la maman en choisit un. Elle choisit le plus fort et elle n'élève que le plus fort et le plus faible meurt naturellement. Eh bien nous mettons toutes les chances de son côté pour aider dans sa mission de maman pour élever et mener à leur terme ces 2 petites filles.
Comment vous expliquez finalement le la fascination qu'ils exercent auprès du grand public.
Il n'y a pas de symbole aussi fort. Je ne connais pas un animal qui soit un symbole à ce point-là dans un pays, comme le panda en Chine. Souvent, nos visiteurs pleurent d'émotion en voyant pour la première fois cet animal extraordinaire, ce chat-ours. Il y a vraiment des gens qui sont fascinés par ces animaux incroyables que sont les pandas géants.
Rodolphe Delors, directeur général du zoo de Beauval avec Lionel Gougelot pour Europe 1. Et les prénoms des bébés pandas seront choisis par la première dame de Chine et seront connus dans 100 jours.
Ça laisse du temps pour y réfléchir. Merci Sophie Tussaud, on vous retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info. À tout à l'heure. Le beau temps, eh bien, on est encore très nombreux à en rêver, mais ce n'est toujours pas pour demain, Valérie Darmon.
Effectivement, Alexandre, déjà en matinée sur l'est des Hauts-de-France, jusque surtout le Grand Est, en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté, les pluies sont encore passagèrement marquées et orageuses, relayées en journée par des averses, entrecoupées de brèves éclaircies. En revanche, de la Normandie au bassin parisien, tout de même, l'amélioration est un petit peu plus sensible, bien que passagère. Les ondées y sont plus espacées, les apparitions du soleil un tout petit peu plus large. Sur la bordure méditerranéenne, malgré un soleil bien voilé par moments, l'impression reste lumineuse. Et sur tout le reste de la France, la journée qui s'annonce plutôt maussade, sous un ciel très nuageux, plus ou moins pluvieux, pluies ou ondées qui sont plus rares sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, et bien évidemment les températures qui ne remontent toujours pas.
Merci Valérie, on vous retrouve à 18h30 pour un nouveau point météo sur Europe 1.